Violence conjugale ou prostitution, deux problématiques de violence qui trouvent des solutions dans les Hautes-Alpes.
C'était la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Hier, l'occasion de mettre la lumière sur le dispositif téléphone grave danger ou encore la commission contre la prostitution. Elle permet de sortir les victimes et les accompagner vers l'insertion.
Le refuge de la honte à Montaigne, condamné par la justice.
Un père et sa fille comparaissaient devant le tribunal correctionnel de Gap pour pas moins de 24 infractions. Une trentaine de chiens leur avaient été retirés. L'histoire absurde d'un père qui voulait offrir à sa fille atteinte de phobie sociale un refuge et qui se termine en maltraitance animale.
Sans statut, on est tout nu.
Les infirmiers anesthésistes étaient mobilisés hier dans les Alpes du Sud. Ils se sont déshabillés pour faire parvenir leur message. Une revalorisation de leur profession.
Et puis après 13 ans de travaux de nombreuses oppositions, le chantier RTE Haute-Durance touche à sa fin.
200 km de lignes électriques auront été rénovées, 150 entreprises locales auront travaillé et l'entreprise l'assure. Le paysage s'envoie modifié. Météo, c'est frais, mais avec des éclaircies.
Oui, éclaircies qui prédominent en vallée, mais il y a quand même quelques passages nuageux qui restent présents en montagne, surtout à proximité de la Savoie et de l'Isère. Alors après la fraîcheur matinale, les températures maximales vont peiner à s'élever, hein, 5 à 10 degrés en général sur nos deux départements. À la une de l'actualité, c'est la lutte contre les violences faites aux femmes qui prend un nouveau virage dans les Hautes-Alpes.
Hier, c'était la journée internationale dédiée à cette grande cause, mais le combat est quotidien. Dans les Hautes-Alpes, il faut faire face, comme d'ailleurs un peu partout, à des violences qui ne faiblissent pas, des violences polyformes. Il y a d'abord les intrafamiliales, les conjugales, et puis les violences faites aux femmes au travers de la prostitution. Deux problématiques qui trouvent aujourd'hui deux réponses dans le département. Le téléphone grave danger et une commission d'accompagnement pour sortir les victimes de la prostitution. Christophe Laurenceau.
Depuis le début de l'année et jusqu'au mois d'octobre, c'est déjà 350 actes de violence conjugale sur les Hautes-Alpes, soit plus d'un par jour selon le procureur de la République de Gap. Depuis son arrivée à la tête du parquet, Florent Crouy en a fait une priorité et l'un des dispositifs qu'il souhaite démocratiser, c'est le téléphone grave danger, un téléphone classique qui a simplement un bouton rouge SOS qui permet, quand la personne est en danger, de contacter un téléopérateur.
Quand je suis arrivé, il y avait zéro téléphone grave danger. Il y en avait un seul qui était dans mon bureau, pas attribué. Il y en a 8 aujourd'hui dans le département. Le choix de la victime, c'est d'abord une volonté d'engager un processus judiciaire. C'est souvent une plainte. Deuxième chose, c'est une volonté de rompre la relation avec l'auteur des faits et une séparation physique entre les deux. Et à partir de ce moment-là, on fait une évaluation de la situation et on lui donne un téléphone, qui est un téléphone classique, dispose d'un bouton rouge SOS qui permet, lorsqu'elle est en danger, d'appeler un téléopérateur qui la géolocalise et qui dépêchera, selon lui où elle se trouve, des forces de police ou de gendarmerie. Ça a déjà permis sur une victime d'alerter les services de police et de la mettre en protection.
À l'inverse du bracelet anti-rapprochement qui est trop gros, trop inquiétant en termes de géolocalisation et trop peu utilisé dans les jugements, le téléphone grave danger est un outil favorisé par les victimes grâce notamment à l'accompagnement réalisé par les associations Mediavic et CIDFF. C'est notamment le cas de cette haut-alpine qui en possède un et qui a eu le soulagement de voir son ex-compagnon condamné par le tribunal correctionnel de Gap pour harcèlement et menace de mort en cette journée si spéciale.
Je pense que oui, je suis partie pour le garder un bon moment. Je me sens rassurée de l'avoir avec moi 24 heures sur 24. Je ne l'ai jamais utilisé pour moi personnellement, mais on a fait des tests avec les organismes pour voir s'il fonctionnait bien, comment je vais souvent dans des zones blanches et effectivement ça marche. Je trouve que c'est pratique, c'est rangé dans mon sac, c'est discret, c'est mieux que le bracelet anti-rapprochement. Parce que comme la personne qui me harcelait habitait dans la même ville que moi et était à moins d'un kilomètre, ça aurait bipé tout le temps.
Dans une autre facette des violences à l'égard des femmes, une commission de lutte contre la prostitution a été installée ce jeudi dans les Hautes-Alpes avec la préfecture, le parquet, les collectivités, les forces de l'ordre et la déléguée aux droits des femmes ainsi que l'association Agir pour le lien social et la citoyenneté, Christophe.
Ces deux missions sont de prendre la mesure du phénomène sur le département en définissant des orientations stratégiques, mais surtout d'examiner les situations individuelles de ces femmes afin de leur offrir un parcours de sortie, et d'insertion en trois étapes pour la préfète Martine Clavel.
Ce parcours de sortie de la prostitution, c'est trois choses. C'est d'abord un travail d'accompagnement social global qui est fait par l'association ALC. On travaille sur l'insertion professionnelle, on travaille sur le logement, sur la santé. C'est ensuite la possibilité pour les personnes qui sont en situation irrégulière sur notre territoire de bénéficier d'un titre de séjour de 6 mois qui est renouvelable 3 fois. Et enfin, c'est la possibilité de remplacer, évidemment, sans doute pas à même hauteur, les ressources apportées par la prostitution et d'y substituer donc une allocation financière qui est versée par la MSA, la Mutualité Sociale Agricole.
Même si la prostitution de rue est inexistante sur les Hautes-Alpes, celle dite logée est bien présente en station et à Gap à cause d'Internet et des réseaux sociaux. Un véritable fléau que cette commission doit aider à combattre en tendant la main lorsqu'une femme veut sortir de ce cauchemar. Pour rappel, depuis la loi de 2016, la prostitution n'est plus un délit et les prostituées sont considérées comme des victimes, ce qui est puni, et le fait d'y recourir est bien entendu le proxénétisme.
Merci Christophe. Et pour rester dans le volet judiciaire, 2 dossiers de proxénétisme seront portés devant la justice, devant le tribunal correctionnel de Gap le 9 décembre prochain.
Et toujours dans le volet judiciaire, avec ce père et sa fille condamnés pour le refuge de la honte.
C'était à Montpellier, pas moins de 24 infractions leur étaient reprochées, allant de la maltraitance animale à la vente irrégulière de chiens. Ce jeudi, ils ont été reconnus coupables par le tribunal correctionnel de Gap, lui condamné à 1 an et demi de prison avec sursis, plus de 28 000 euros d'amende et l'interdiction de posséder des animaux domestiques ou de pratiquer une profession en contact avec eux pendant 5 ans. Elle écope de 1 an de prison avec sursis, 3 ans de mise à l'épreuve. C'est l'histoire absurde d'un père qui voulait offrir un refuge animalier à sa fille atteinte de phobie sociale alors que ce métier ne s'invente pas. Aurore Valory.
L'intention était de bien faire un élevage, mais si on se retrouve là, c'est que ce n'est pas une réussite. L'euphémisme d'un père de famille à la barre du tribunal correctionnel de Gap, c'était le 28 octobre dernier. Tout commence en juin 2019, lorsque la présence de nombreux chiens dans cette propriété de Montpellier, au lieu dit les Allemands, suscite la réaction du voisinage. Il signe notamment une pétition pour se plaindre des nuisances sonores auprès du maire de l'époque et aujourd'hui parti civil, Guy Julien. Une installation familiale au nom de Théo qui devient rapidement un élevage exploité par Lara et géré par Jean-Pierre. Un trio qui se transforme rapidement en duo car pour le fils, ce ne sont pas mes affaires, j'ai juste rendu service à ma famille. Cet élevage est en effet censé être le cadeau d'un père pour sa fille qui aime les animaux, mais qui souffre de phobie sociale, d'un sentiment de persécution et de troubles bipolaires. Un peu de réconfort, même s'il sait que ce n'est pas la solution, explique la défense. Mais le gros hic est l'état de cet élevage. Après une mise en demeure en juillet 2020, les services de l'État interviennent le 5 août et le constat a de quoi donner des cauchemars à tous les amis des animaux. L'eau est verte, des odeurs de putréfaction et de défection émanent, les abris sont trop petits et les auges insuffisantes en nombre, ce qui pousse les chiens à se battre et à se blesser. Au total, 34 chiens ont été placés et mis à l'abri auprès de la Fondation Assistance aux Animaux, qui s'est également portée partie civile. Ce tragique spectacle ne s'arrête pas là car des pratiques commerciales trompeuses ont également été réalisées en inventant tout simplement une race pour attirer plus facilement des acheteurs à travers des annonces mensongères. À la suite d'une portée inopinée d'un border collier et d'un husky qu'on appelle Borski, Jean-Pierre n'aimait pas le nom, il a créé le berger nordique. Dans un bon mot, la présidente du tribunal, Sophie Boyer, souligne qu'on n'est plus dans le border collier mais dans le borderline. Un autre euphémisme pour les avocats des 5 parties civiles et du substitut du procureur de Gap, Sébastien Beaussian.
Merci Aurore. Alors que le parquet réclamait qu'il fallait que ça s'arrête, ces réquisitions ont été suivies. Quant aux parties civiles, elles ont été reconnues et compensées financièrement.
L'alpiniste briançonnais Gabriel Miloche sera inhumé ce samedi.
Il a perdu la vie à la fin du mois d'octobre au Népal, emporté par une avalanche avec 2 autres alpinistes, Louis Pachou et Thomas Harfi, alors qu'ils avaient entrepris l'ascension du Mingbo-Eger dans l'Everest. Tous les trois faisaient partie du géant, le groupe Excellence Alpinisme. Le corps de Gabriel Miloche avait été retrouvé le 8 novembre. Ce samedi, une cérémonie religieuse aura lieu à 10h à la collégiale de Briançon. Elle sera suivie de l'enterrement au cimetière de Presles à Saint-Martin de Carrières. Un hommage sera aussi rendu lors de la cérémonie des Piolets d'or à Briançon ce samedi et ce dimanche.
Des infirmiers anesthésistes nus dans la rue, le spectacle avait de quoi surprendre les badauds hier à Gap.
Sans statut, on est tout nu, avaient écrit les professionnels, une 30aine qui manifestaient pour demander une reconnaissance de leur statut à hauteur de leur formation et leur diplôme. Ils dénoncent aussi le manque de moyens et d'effectifs alors qu'ils sont en première ligne face à la crise Covid.
La décision est absurde et grave, sur le fond et la forme. Ensemble réagit après l'annonce de Roger Didier de sortir l'agglomération Gap-Talard-Durance du SCOT.
Le schéma de cohérence territoriale, une information Alpe 1. Un vote aura lieu le 16 décembre prochain au sein de l'agglomération, alors que le président de l'intercommunalité demande une plus grande représentation au sein du conseil syndical du SCOT. Ensemble 05 et PAC se prononce contre cette sortie et demande au conseil communautaire de voter contre. Peut-on imaginer que le territoire de l'agglomération soit exclu du projet de territoire qui anticipe les conséquences du dérèglement climatique et les transitions écologiques, énergétiques, démographiques et numériques, écrit le groupe.
Après 13 ans de travaux et de nombreuses oppositions traduites en procédures judiciaires, bien ça y est, le chantier RTE Haute-Durance touche à sa fin.
Et le réseau électrique est donc aujourd'hui rénové et sécurisé dans le nord des Hautes-Alpes. 200 km de lignes rénovées, la moitié enterrée, 230 millions d'euros investis par RTE auprès de 150 entreprises locales. Jean-Philippe Bonnet, délégué régional de RTE Méditerranée.
La Haute-Durance est un territoire de montagne, plus sensible que d'autres aux menaces du réchauffement climatique. Et cette rénovation va lui donner les moyens de relever le défi de la décarbonation, de tourner la page des énergies fossiles dans les prochaines décennies. Il s'agit de pouvoir se passer demain à la fois du chauffage au fioul, encore très présent, mais aussi de pouvoir basculer vers la mobilité électrique. Ce programme a débuté à la fin des années 2000, en 2008-2009, avec un diagnostic des besoins et des enjeux énergétiques de la vallée qui a débouché ensuite sur la conception d'un programme de rénovation qui fait la part belle au souterrain puisque la moitié des lignes électriques existantes ont été soit mises en souterrain, soit reconstruites en aérien à l'écart des habitations. Dès le début du chantier, un objectif que nous nous sommes fixés était de maximiser la sous-traitance auprès d'entreprises locales. Nous nous étions fixés au départ un objectif de 30 millions d'euros de retombées locales sur un budget total de 230 millions d'euros. Et au final, nous avons atteint 49 millions d'euros au dernier décompte.
Un programme RTE Haute-Durance qui a suscité durant de nombreuses années l'opposition de la part de certains citoyens du territoire regroupés au travers de collectifs et d'associations écologistes. Ils défendaient notamment l'enfouissement total des lignes. Pour le délégué régional de RTE Méditerranée, cette rénovation s'est faite en faveur du paysage.
Il est normal qu'à l'occasion d'un programme de transformation comme celui-là, des inquiétudes s'expriment. RTE les a entendues. Nous avons passé plusieurs années de concertation pour améliorer l'insertion paysagère de ce programme. Et aujourd'hui, nous pouvons considérer que les préoccupations ont été bien prises en compte. À l'issue de ce programme, les Hautes-Alpes seront le département de France qui a le plus gros taux de lignes électriques souterraines après les départements de l'Île-de-France.
Jusqu'à l'automne 2022, RTE indique qu'elle va poursuivre ses actions pour démonter des lignes électriques anciennes et des pylônes vétustes, notamment à Mont-Dauphin, au col du Lautaret et du Galibier. 690 pylônes seront démontés sur l'ensemble du chantier. 353 auront été reconstruits.
En bref, c'est un inforoute, la 51, fermée entre Pertuis et Manosque la nuit prochaine, vendredi à samedi, hein, 21h à 5h du matin.
En cause des convois exceptionnalitaires qui vont transiter sur l'itinéraire, l'autoroute sera coupée dans les deux sens de circulation. Des déviations sont mises en place.
Et savez-vous planter les haies à la mode de la Safer ?
Direction Volx ce samedi avec la Safer qui encourage la biodiversité en plantant des haies. Jusqu'à la fin du mois, 2 km seront plantés chez 4 exploitants agricoles du Luberon récemment installés. Plus de 2000 arbres représentant près de 40 essences différentes et locales. Alors pourquoi c'est important ? Eh bien parce que la disparition des haies a impacté la biodiversité. Elles abritent en effet la petite faune, les oiseaux, les insectes. Cela permet aussi de limiter l'érosion, de faciliter la rétention d'eau. C'est pratique contre les inondations et cela produit du bois.
Alpe 1 Sport. Alpe 1 Sport.
Alors, la passe de 2 des Rapaces face à Angers.
On parle hockey avec cette 23e journée de Ligue Magnus ce soir. Vainqueur la semaine passée sur la glace de l'Ice Park, le club haut-alpin va tenter de réitérer cette performance ce soir à 20h30 à domicile. Un choc entre les seconds et les cinquièmes. Quant aux Diables Rouges de Briançon, ils enchaînent les défaites et s'embourbent un peu plus dans les profondeurs du championnat. Une lanterne rouge qui va malgré tout essayer de retrouver le goût de la victoire face à l'Ormadier d'Anglette, actuellement 10e. La formation basque reçoit à 20h30 les hommes de Daniel Cédric.
L'actu des Alpes du Sud continue sur alpe1.com.